un petit livre de Thierry Hensch intitulé « La mer, la limite ». Contemplée du rivage, la mer donne ensemble l'idée d'infini et de limite. La mer ne finit pas à la ligne précise et toujours mobile de l'horizon. Elle a au loin d'autres rives, semblables à celles que j'ai sous les yeux, là où, tout près, l'infini de la mer s'achève. Ligne mouvante dans l'incessant allaitement des eaux dont la marée étale les déplacements. Le spectacle de la mer allaitant le sable, le spectacle du sable buvant la mer ne se déploie jamais tout à fait au même endroit. La rencontre exacte du sable et de l'eau, ses hasards, ses courbes imprévues, évoquent en nous une affinité profonde. Elle rappelle la nécessité de la frontière et invite inlassablement à la fluidité de toute limite. Ligne capricieuse que la vague suivante débordera ou manquera d'atteindre. La mer découpe sans répit une plage qu'elle n'épousera jamais plus. Fascination de sa masse instable, la mer sera toujours là et jamais au même endroit. Fidèle et inconstante, pareille et différente, elle agite en moi l'autre et le même sans du tout les confondre. En elle, la limite respire. Mille façons de penser la limite, autant d'ourlets neigeux sur la plage. Celle que je risque ici se propose comme une éthique, comme une tentative de se tenir à l'orée sur la lisière. Manière de côtoyer ce qui fait défaut, apprivoisement du manque, en somme. Le manque se dérobe et se dévore sournoisement de n'être pas pensé, tenter de résister à ce qui l'évacue, ne pas perdre sa trace. L'éthique de la limite, l'éthique du manque, manque à notre temps. Elle manque à la civilisation qui le domine encore. Je parle de la civilisation que nous englobons et délimitons sous le nom d'Occident, à laquelle nous adhérons le plus souvent sans réfléchir. Nous, Occident, savons qui nous sommes. Nous sommes à la fois l'aboutissement et la frontière en marche, le monde en puissance, le bras droit de l'histoire, la fille aînée de la découverte et de la science. La contestation interne de notre propre hégémonie participe elle-même du mouvement novateur qui le pousse en avant, nous les porteurs du monde. Nous sommes comme Édipe avant la chute, rois et maîtres, sans limite, aveugles, aveugles à notre aveuglement. Là où il n'y a pas de limite, on ne voit rien. À commencer par la place qu'on occupe. L'Occident, au sens propre, est l'horizon de la chute, la ligne derrière laquelle sombre le soleil. L'annonce répétée de tous les déclins ne nous a pourtant pas éveillés à la puissance mortelle de notre propre métaphore. Nous sommes la première civilisation à s'être nommée à partir d'un point cardinal, à s'être définie en vertu d'une direction, d'un mouvement. L'Occident est la civilisation qui va vers le soleil couchant. La trajectoire du soleil répète chaque jour le mouvement de l'histoire qui mène jusqu'à nous et dans lequel s'inscrit tout naturellement la conquête de l'Amérique. Parcours emblématique que celui de Colomb, cet obstiné qui a tant contribué à l'avènement du monde moderne est mu par un projet plutôt archaïque, le combat pour la foi. Le navigateur rappelle lui-même dans son adresse au roi catholique avoir hissé la voile l'année même de la prise de Grenade. 1492, exploit qui met fin à la guerre contre les morts et prélude à l'expulsion de tout ce qui n'est pas authentiquement chrétien de la péninsule ibérique. Ce rapprochement, chez lui, n'est pas fortuit. Non seulement Colomb cherche-t-il à prendre l'infidèle à revers, idée fixe qui l'empêchera d'imaginer avoir buté sur un autre continent, mais il se lance dans une quête obsessive de l'or qui, à ses yeux, doit servir à financer de nouvelles croisades. Suivre le soleil, traquer partout son reflet précieux, extraire ses dépôts minéraux, bref, s'emparer, nouveau Prométhée, de la lumière qui raccourcira l'ombre adverse et blanchira la face de l'autre. Il n'était pas nécessaire à l'aventurier de savoir ce qu'il faisait, il suffisait que l'élan soit donné et que le pillage commence. Une fois parvenu au Pacifique, la raison chère à Hegel ne peut que submerger le Japon, la Chine, l'Inde. L'Asie n'a plus qu'à s'occidentaliser. Jusqu'à l'islam, qui n'y coupera pas, les autres retardataires, les laissés pour compte, suivront ou disparaîtront. Cette vision du monde et de l'histoire, nous y sommes encore, malgré le mea culpa de la décolonisation et la critique de l'impérialisme, qui n'auront finalement qu'accentué notre bonne conscience et notre cécité. Nous ignorons à quel point cette manière de voir nous conditionne, tant elle nous est familière. Mais elle occulte encore une métaphore autrement plus forte, celle qui annonce à notre insu notre propre fin. L'Occident est aussi le lieu symbolique de la mort. Le retour quotidien du soleil masque de son éclat un fabuleux lapsus. Le lapsus par lequel la civilisation occidentale, à travers le nom qu'elle s'est donné, annonce son inéluctable dépérissement. De ce magnifique lapsus, hélas, nous ne voulons rien savoir. Tout doit continuer comme si le mot de Valérie n'avait jamais été dit. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, écrivait-il au lendemain de la Première Guerre mondiale. Simple coup de chapeau à l'inévitable, l'avertissement a passé sans nous atteindre. Nous croyons sans doute avoir survécu à pire encore, nous tous rescapés sans stigmate ni désespoir des camps d'extermination. Les civilisations ne sont mortelles que jusqu'à nous. Nous qui savons les civilisations mortelles et qui avons failli mourir de ne pas le savoir échapperons à la mort. Les civilisations s'effacent les unes les autres, la civilisation, elle, ne meurt pas, ne doit pas mourir. Mais de quoi au juste est faite cette civilisation à laquelle nous disons prendre part? Je serais bien embarrassé de le dire. Chaque fois que l'Occident me vient sous la plume, j'ai le sentiment de commettre un abus. Abus de langage d'abord, l'assiette géopolitique de cette métaphore est introuvable ou trop vaste ou fêlée, comme ces faïences usées qui vibrent d'un son fragile lorsqu'on les frappe. L'Occident de l'Europe, à supposer même qu'il y en ait un et qu'on sache où il commence, n'est pas celui de l'Amérique, sans parler de cette autre Amérique qu'on dit latine ou du Sud. Même chose dans le temps, l'Occident de Descartes, s'il existe, n'est pas celui de Kant, qui n'est déjà plus le nôtre depuis longtemps. Nous ne sommes cartésiens que par méprise et ne savons plus ce qu'être kantien veut dire. Descartes visait la sagesse, sa forme à lui de piété. Kant réfléchissait aux limites de la raison. Notre raison à nous se croit tout permis. Elle s'imagine maîtriser tout ce qu'elle touche, à commencer par l'homme même. Abus de langage, abus de pouvoir. L'Occident éternel ignore ses sources et se prend pour le monde. Le cosmos déjà lui appartient. Ne serais-je pas, à mon tour, en train de dépasser les bornes, entraîné par le mouvement dont je parle, à suggérer que l'Occident n'en connaîtrait aucune? S'il est une civilisation qui en a partout posé des bornes, fût-ce pour les transgresser, s'il est une civilisation qui a découpé, classé, trié, réparti, compartimenté, c'est bien la nôtre. Mieux, s'il est une civilisation qui s'est interrogée sur les limites, y compris les siennes, c'est bien elle encore. Tout se passe pourtant comme si ce questionnement appartenait à une autre époque ou n'avait pas de conséquences. S'il subsiste, en effet, il se montre remarquablement inapte à conjurer l'excès qui nous gouverne. La réflexion sur les limites paraît sans force contre la démesure de notre temps. C'est peut-être qu'au principe même de cette réflexion réside une insuffisance radicale. Comme tout rivage, la limite est trompeuse, facile à voir et impossible à saisir. La vue rassure. En ce qu'elle a de visuel, la limite s'impose d'elle-même et nos représentations se contentent de cette facilité. Penser frontière, c'est voir une ligne se dessiner dans la tête. Mais nous préférons encore que la géographie s'en charge. On aime à dire que les crêtes, les cours d'eau constituent des frontières naturelles. La nature se porte au secours de l'imagination et simplifie les tractations diplomatiques. Elle offre un tracé sûr. La commodité militaire y est également pour quelque chose, mais elle n'explique pas tout. La satisfaction que procure la visibilité et la stabilité répond à une nécessité plus générale. Toute limite physiquement repérable dispense d'interroger son fondement imaginaire et empêche de penser sa mouvance. Pourtant, ce besoin de fixation ne résiste pas à l'image la plus banale. Deux pêcheurs installés sur les rives opposées de la Loire, bien que séparés par elle, appartiennent de toute évidence au même monde. Si le Rhin divise et que le Rhône unit, mieux, si le même fleuve ici sépare et plus loin rassemble, ces différences de fonction n'apparaissent pas à l'œil. On ne les voit, tout au plus, que dans l'exacte juxtaposition des couleurs sur les cartes politiques accrochées au mur des cartes des salles de classe. Ces mosaïques deviennent si familières à l'écolier rêveur que pour un peu, il les aimerait agencer et colorier par la nature. La frontière est d'abord animale, olfactive. La seule probablement dont on puisse dire qu'elle est naturelle, ce mot dont on ne se méfie jamais assez. Les loups, les chiens, la trace à coups de pisse et la débusquent au flair. Les émanations du corps attirent ou tiennent à distance. Qui n'a jamais été agressé, envahi, repoussé ou vaincu par la chimie d'une peau ou de son parfum? Attirant ces répulsions mystérieuses où l'odeur n'agit presque jamais seule et se combine au contraire à maints autres signes, visibles et invisibles. Il faudrait pouvoir parler ici de la voix, de ses intonations, volutes douces à vouloir s'y lever, ou coupes glaciales, banquises inhospitalières. Sinueuse, la parole délimite une zone de partage, d'interférence. Possessive, elle circonvient le dispositif adverse, déferle dans ses quartiers privés. Tranchante, elle ferme, verrouille, exclut. Pointue, elle perce, troue, brise la ligne ennemie. Certaines paroles, qu'on croit anodines, laissent une trace qui n'émerge qu'après des années. Un commentaire au détour d'une leçon, un propos lancé au vent d'un matin neigeux marque notre vie et nous n'en savons rien, jusqu'au jour où son retour s'imprime dans la mémoire pour ne plus la quitter. Comme ce constat sur la banalité de mes 11 ans, que laissa tomber mon père en se rasant à l'aube d'un jour comme les autres et que j'entendis 30 ans plus tard. Il faudrait aussi parler de la musique, des lignes fugitives qu'elle nous invite à suivre et que les musiciens ne cessent de reprendre pour le plaisir de l'oreille. Tant de rigueur à tisser ce qui file. Le papier pourtant retient la portée et ses signes, muet pour moi, mais que l'initié entend à vue. Que l'on entende en l'absence d'aucun son, miracle. Autre prodige, banal et oublié, les mots, ces traces de tous les jours. La frontière pour moi la plus troublante et la plus révélatrice est celle du moins dont la métaphore éclaire le mieux mon propos, c'est encore la frontière de l'écriture. Rien de plus nettement délimité qu'un texte, même interrompu, même incomplet. Limite de ce texte que j'écris et qui s'arrêtera, achevé ou inachevé. Chaque phrase, chaque mot, chaque lettre que je lui ajoute ou que j'en retranche le laisse, quoique modifié, dans le même état de précision. Raison pour laquelle des cohortes d'érudits consacrent un temps infini à l'établissement des écrits dont nous sont parvenus des copies divergentes. Une lettre, une virgule parfois suffisent à en modifier le sens. Je devrais dire les possibilités de sens. De sens, le texte à lui seul n'en possède pas. Aussi longtemps que les signes cunéiformes nous sont restés fermés, les tablettes babyloniennes ne pouvaient rien nous dire, sauf témoigner d'une éventualité de sens. Ne peut commencer à faire sens que le texte dont le lecteur possède les codes. Il n'y a de texte qu'en présence d'une lecture. Et c'est là, en cette présence, que le miracle se produit, peut se produire. Cet objet rigoureusement délimité, le texte, s'ouvre à une infinité de lectures. Tout texte est à la fois parfaitement clos et invitation à l'ouverture. Lire un livre, c'est au sens fort, l'ouvrir. Un ami me faisait récemment remarquer que si le livre avait été inventé après l'ordinateur, il serait apparu comme un progrès remarquable. L'écran s'apparente davantage à l'antique rouleau qu'au codex, forme qu'adopte le livre moderne, qui, tout en étant parfaitement ordonné, a l'immense avantage de n'imposer aucun ordre de lecture. Toute page, de la première à la dernière, y est instantanément accessible. Le livre offre la possibilité de feuilleter, de fureter, de musarder, que l'ordinateur ne reproduit qu'assez gauchement. Entre livre et libre, il n'y a qu'une lettre de différence. L'espace clos du livre est une liberté offerte à la lecture. Ce miraculeux paradoxe inquiétait Platon. Le dramaturge qu'il était avait une peur noire d'être mal lu. Cette préoccupation émerge clairement du Phèdre, dialogue sur l'amour du discours, sur la beauté envoûtante de la rhétorique, que Derrida donne à relire dans un texte intitulé « La pharmacie de Platon ». Lecture exemplaire, justement, de ce que, conjuguant liberté et rigueur, elle recrée. Peut-être Platon espérait-il des lecteurs tels que Derrida. Il ne fait du moins aucun doute qu'il craignait que ses écrits fussent platement répétés. Comme si la frontière de l'écriture risquait de se confondre avec celle de son interprétation. Comme si la fixité de l'écrit menaçait de scléroser le propos. Dans un souci presque contradictoire, Platon s'inquiète aussi de ce que le père du discours, celui qui l'a couché par écrit, ne sera pas toujours là pour le défendre. Le texte est condamné à devenir orphelin. Il l'est en un sens dès sa parution, sitôt qu'il passe de main à main. Voilà donc l'écrit menacé sur deux fronts, par la fossilisation et par la déformation. La contradiction n'est qu'apparente, ces deux menaces se combinent. Il en va de la lecture comme du corps, toute posture figée, crispée et contrefaite. Contrefaçon d'autant plus trompeuse qu'elle se donne pour conforme. La conformité déteste le mouvement. Dans le Phèdre, Platon exprime implicitement le regret de n'avoir pas pu suivre l'exemple de son maître, qui s'est délibérément abstenu d'écrire, convaincu qu'il était, si l'on en croit les dialogues laissés par son disciple, que la vérité ne jaillissait par étincelle que du choc des paroles. Socrate, comme chacun sait, n'avait pas la vérité. Il se contentait de l'accoucher de la bouche de ses interlocuteurs, les amenant presque immanquablement à reconnaître qu'ils ne savaient pas de quoi ils discouraient. Chez lui, la vérité s'imposait d'abord comme négation. De la vérité, Platon devait probablement avoir une soif positivement plus forte, mais cet amoureux de l'intelligible, lui aussi, le savait inatteignable. Chez lui, la rhétorique est aussi éloignée de la beauté à laquelle elle vise que le philosophe de la sagesse à laquelle il aspire. A fortiori, quand on se fixe, se risque à la fixer, sagesse ou beauté, dans l'écriture. L'écriture n'est pardonnable que de laisser entre les lignes des espaces vierges où germeront à loisir les semences invisibles que l'écrivain jette dans la foulée de son discours. La métaphore est de Platon. Il s'agit non pas de tout exposer à la vue du lecteur, mais en bon jardinier, de préparer pour plus tard des jardins d'écriture. Le Phèdre même en offre la meilleure illustration. Son écriture ne cesse de dérouter le lecteur, au point que pendant des siècles, ce bijou d'architecture verbale a été considéré par le concert de ses commentateurs comme une pièce particulièrement mal construite. Platon a réussi ce tour de force, donner à un texte qui a valeur de clé de lecture, sinon pour toute son œuvre, du moins pour la plupart de ses dialogues, l'allure d'une improvisation brouillonne. L'écriture, dit Platon, est une drogue, en grec pharmakon, remède et poison, utile à ceux qui n'en usent qu'à petite dose comme béquille de la mémoire, nocive à ceux qui en abusent et s'abusent sur son pouvoir. Qui croit dans l'écrit tenir, aussi sûrement que la totalité des signes qu'il renferme, la vérité ou la beauté qu'il évoque ne tient qu'un leurre. Le lecteur ne lit vraiment que s'il se fait à son tour jardinier du texte et se met à sarcler les espaces que ce dernier a laissés en friche. Un texte qui ne mène pas entre ces lignes, derrière elles, au-delà, n'est lu, n'est pas lu ou ne mérite pas de l'être. Je m'étonne toujours des critiques qui ont communément cours contre Platon et qui lui imputent à tort ou à raison la responsabilité de l'impasse métaphysique où a échoué la philosophie occidentale. Je ne m'étonne pas tant de la substance de ces jugements que de l'assurance qui les soutient. L'assurance d'avoir compris Platon, de l'avoir saisi, sinon dans la totalité de sa pensée, du moins dans son essence. Ces gens connaissent effectivement Platon, beaucoup mieux que moi. Ils le possèdent à fond. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'homme et son œuvre, ils l'ont appris. Et je me dis pourtant, ils n'ont pas lu Phèdre. Ils savent tout sur Platon, mais ce texte-là, Phèdre, ils ne l'ont pas lu. Sottise, ils en connaissent évidemment l'existence, l'objet, le contenu. Ils l'ont attentivement parcouru de la première à la dernière réplique. Il se peut même qu'ils l'aient traduit, commenté, passé au peigne fin. Et pourtant, je ne peux me défendre de l'impression, à les entendre, qu'ils ne l'ont pas lu. Combien de textes ai-je moi-même parcouru, souvent plus d'une fois, sans les lire, sans en être marqué? Si j'insiste sur le Phèdre, c'est que ce texte est peu à peu devenu pour moi une béquille, pas seulement de la mémoire, mais de la pensée. Aucun autre texte, à ma connaissance, ne pose avec autant de force, jusque dans son écriture même, la question de la frontière. Cette question gît enterrée dans les jardins du Phèdre, et je ne devrais pas m'étonner qu'elle n'y soit pas lue. Dans le dialogue de Platon comme dans la vie, la question du tracé demeure obscure, pour ne pas dire insondable. La difficulté que j'ai à lire Phèdre, au-delà du plaisir que j'y prends, la difficulté que j'éprouve devant la question de la limite me dépasse. Ce sont des difficultés de notre temps. Notre temps est à l'abolition des frontières. Non que les frontières soient effectivement abolies, mais de ce qu'elles ont mauvaise réputation. Le mot même de frontière résonne d'une certaine inconvenance, comme s'il portait en lui le bacille de l'exclusion. Non sans raison. Le siècle qui s'achève lui a versé un lourd tribut. Front, frontière, tranchée, barbelés, camp de concentration, zone d'occupation, partage. Peu d'époques ont porté en si peu de temps autant de blessures aussi profondes, aussi purulentes, aussi haineuses. Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, notre génération, celle qui est aujourd'hui dans la cinquantaine, n'espérait pas de son vivant voir tomber le mur de Berlin. Cette chute fut une telle surprise qu'on ne prit pas suffisamment garde à ce que le démembrement de l'Empire soviétique recréait d'autres frontières, dont les guerres de Yougoslavie n'ont pas fini d'étaler l'horreur. Le siècle de Sarajevo, où la guerre froide fait déjà figure d'anomalie, s'est ouvert et fermé sous l'égide des haines nationales et des massacres ethniques. Mais la division idéologique dont s'accusaient réciproquement capitalisme et communisme a tellement marqué l'imaginaire des enfants de la Deuxième Guerre mondiale que la fin des 40 ans d'invectives et de bras de fer continue d'être ressentie par notre génération comme un grand soulagement. Le ravivement des conflits ethniques et religieux n'y change rien. Confirme au contraire à nos yeux l'insanité de tout ce qui sépare les peuples et divise l'humanité. L'hégémonie des conceptions libérales et néolibérales, qui conçoivent l'économie comme un tout planétaire, travaille dans le même sens. Au point que toute velléité de résistance à cette dynamique mondiale n'apparaît plus seulement comme retardataire réactionnaire, mais devient presque illégitime. Pourtant, j'ai beau me frotter les yeux, je vois bien que les rapports de force brutalement inégaux, qui se prévalent des lois du marché, bouleverse partout les rapports sociaux, menace les modes de vie et par là contribue à accentuer, à exacerber les particularismes et les replis identitaires chez ceux surtout, pays, groupes ou individus, que la mondialisation atteint de ses effets les plus dévastateurs. D'ailleurs, le secteur privé ne se soucie guère des divisions et des différences aussi longtemps qu'elles ne gênent pas les affaires, quand ces dernières ne réussissent pas à mettre ces clivages à profit. Le système qui valorise plus que tout la compétition, la croissance et l'agressivité, le système qui mesure le succès des stratégies utilisées à l'ampleur et à la vitesse des profits comptables qu'elles rapportent, ce système est lui-même facteur de rivalité et de conflit. N'étaient les vastes étendues de souffrances qui les accompagnent, ces conflits économiques pourraient apparaître comme un progrès, de ce qu'ils opposent des forces largement anonymes, interchangeables, dont la fortune varie, et qu'ils se soldent par des transferts symboliques libellés en dollars, en yens ou en euros, plutôt que par des bains de sang. Mais comme chacun sait, derrière la scène financière, ces règlements de compte se paient dans les coulisses du monde en d'autres coupures plus tangibles, livres de chair sacrifiés aux dieux dollars, semblables aux enfants carthaginois que Flaubert, dans Salammbô, livre à la voracité brûlante de son molosse d'airain. Cette évocation me revient d'une conférence de Michel Serres, que Michel Serres donnait à l'École polytechnique de Montréal, et où il nous invitait, je crois, à une certaine prudence en matière de progrès et de civilisation comparée. Chaque époque déploie la cruauté dont elle est capable, et notre siècle, à ce titre, n'a rien à envier aux autres. Il s'est montré à la hauteur des moyens dont il dispose. On peut regretter, avec Einstein, que l'évolution de la technique ne se soit pas accompagnée d'un progrès équivalent dans les consciences, dans le dispositif mental de la civilisation qui l'a produite. Les mentalités, pourtant, ne sont pas immobiles. L'imaginaire collectif est vivant, il évolue. Mais il est aussi menacé d'involution. Menace peut-être plus diffuse que jamais, au moment où certains, faute d'imagination, se croient déjà aux confins de l'histoire. Manière de dire, mais le savait-il, que l'humanité aurait épuisé ses possibilités sociales et n'aurait devant elle plus d'autre horizon que celui de la marchandise et de la consommation. Tout ne serait plus qu'affaire technique, de circulation et d'aménagement. Toute altérité, un peu forte, serait promise à fondre dans la reproduction infinie du consensus universel. Le creuset américain à l'échelle planétaire, avec en prime la diversité sous forme de capsules folkloriques. Là où ne règne qu'une idéologie, une idéologie, et c'est pour le monde la suite la plus triste de l'effondrement du système soviétique, s'efface toute limite, se brouille tout discours jusqu'au réquisitoire qui la condamne. Illusion ou vitupération? Illustration ou vitupération, les discours sur la mondialisation appartiennent à la même sphère, procèdent tous, plus ou moins, d'un même savoir, d'une même ignorance. Tous les arguments y sont à peu près interchangeables. Le monde va s'unifiant, le monde va se déchirant. Les deux assertions sont également vraies, également fausses, également ineptes. L'ineptie, dans un cas comme dans l'autre, consiste à argumenter comme si on avait affaire à un phénomène en soi, indépendant de nous, extérieur au discours qu'il aborde, comme s'il s'agissait d'un fait, dont il convient de bien cerner la réalité et où les images ne joueraient aucun rôle. L'explosion télématique indique pourtant tout le contraire. Elle se nourrit de nos représentations et affecte à son tour notre vision du monde. Si elle n'était constellée de territoires, de sites, de la toile électronique mondiale projetterait l'idée d'un monde sans limites. Mais elle est réseau de réseaux et la navigation s'y heurte très vite à de multiples barrières, procédures, cul-de-sac, saturation, virus, péage. La toile n'est sans limites virtuellement que dans son expansion. Elle illustre le principe selon lequel le virtuel, par définition, n'a pas de limites, mais c'est une autre affaire. Le discours sur la mondialisation, quel qu'il soit, joue bel et bien dans les représentations collectives. Et les notions de barrières, de limites, de frontières y tiennent une place importante et particulièrement ambiguë. Elles y apparaissent tour à tour comme des obstacles à tourner, à éliminer, ou comme des lignes de résistance à maintenir, à renforcer. Gardien de l'espace national, l'État est tantôt pressé de s'effacer au nom de l'efficacité économique et de s'adapter à la dynamique du marché mondial, tantôt invité à élever des remparts protecteurs contre les effets pervers de la globalisation. La culture est alors hissée à grands frais sur ce créneau défensif, quand chacun sait que cette vieille pièce a depuis longtemps cessé de servir. Qu'importe, elle exige soudain d'être préserver bec et ongles de l'invasion culturelle dont les États-Unis menacent la planète entière. Comme si la menace datait d'aujourd'hui. Comme si l'invasion était à la fois univoque et divisible. D'une part exclusivement américaine, d'autre part économiquement, techniquement, électroniquement, financièrement, touristiquement faste et culturellement odieuse. Bref, comme s'il y avait dans notre mode de vivre un espace réservé, un compartiment sacré appelé parfois « identité culturelle », susceptible d'échapper au maelstrom planétaire qui emporte nos sociétés et bouleverse nos habitudes. Au nom de la pluralité des cultures, du respect des différences, et bientôt, si ce n'est déjà fait, au nom de la biodiversité humaine, on cultive la distinction là où naguère on prétendait gommer les frontières. On encourage le pluralisme là où le civisme prônait l'égalité devant la loi, alors même que la loi continue à consacrer partout l'écart croissant des richesses et des conditions. Ici, particularisme et libéralisme morcellent l'espace politique à coups de divisions et d'enclaves, tracent de petites frontières sanglantes pour en briser de plus grandes. Ailleurs, un fédéralisme centralisateur invoque la circulation des capitaux et la stabilité de la monnaie pour refuser à un peuple le droit d'inscrire son nom sur la carte du monde. Ces rebrassages contradictoires ne sont pas nouveaux. Est nouvelle la ferveur ambiguë qui bénit du même souffle le démembrement et son contraire. Remaniement qu'on n'aurait pas craint il n'y a pas si longtemps d'admettre comme les aléas du jeu des intérêts et des rapports de force, mais qu'il faut aujourd'hui pourvoir d'une sanctification humanitaire. Le parfum de la rectitude politique répand partout son odeur douceâtre et laisse intact l'enchevêtrement insoluble où se croisent la dynamique du monde, l'autodétermination des peuples, la protection des minorités et les droits de la personne. Le souci de la diversité, l'amour de la différence sont des remords poétiques éclos du fumier du capital. Mais que l'autre cesse d'être aimable, qu'il manifeste si peu que ce soit l'irréductibilité de sa résistance, et le voilà retranché de l'humanité. Me voilà glissant vers la polémique quand il faudrait plutôt tenter de comprendre. Inanité de toute lamentation. Vanité d'une protestation dirigée globalement, c'est le cas de le dire, contre la mondialisation du monde. Depuis des siècles que le monde se mondialise, simple question d'accélération. Avec toute l'oppression qu'elle entraîne, j'espère le combat des opprimés, la révolte des humiliés et des démunis, mais je m'en voudrais d'ajouter le mince filet de ma voix au pessimisme confortable des nantis. Reprendre le chemin de la côte, revenir à la lente pulsation qui la change. Vanité du monde, vanité des hommes, sans doute. Mais vanité combien plus grande encore, de les vomir ou de blâmer l'histoire. Ce serait comme de condamner les choses, comme d'accuser la mer des noyades et des naufrages. Je ne peux refuser le monde sans refuser la vie, sans me refuser à la vie. Je ne peux que consentir à ce qui est, consentir à ce monde dont je suis, dont nous sommes tous. J'entends déjà la protestation véhémente de la pensée. L'appartenance au monde est un alibi trop commode. Si l'homme s'inclut plus ou moins adroitement dans une nature dont il ne serait que l'objet, il peut aussi bien se dispenser de réfléchir à ce qu'il fait. Si l'homme est au service d'un programme qui le dépasse, s'il n'est que l'esclave inconscient de cette nature dont il se voudrait le maître, il lui suffit de laisser aller les choses qu'il croit diriger. Et s'il ne dirige rien, si l'agir humain contient d'avance un sens qui ne dépend pas de lui, toute lutte indifférente, toute responsabilité illusoire, toute éthique inutile, l'intelligence du monde ne serait dès lors pour chacun, groupes ou individus, que le moyen de se mettre au plus fort du courant et d'ignorer tout le reste. Idéologie du laisser-faire et cynisme de la puissance dans un monde radicalement sans frontières. L'absence de limites qui caractérise si bien la dynamique cumulative du capital apparaît ici comme le principe naturel de toute évolution, où le facteur humain n'est plus qu'un rouage infime de l'univers. L'humanisme s'est pourtant essayé à démarquer dans la nature le territoire propre de l'homme. Il aspirait à définir ici-bas l'espace que jusqu'alors, par le monothéisme, nos sociétés s'assignaient ou se faisaient assigner d'en haut. La religion s'imposait comme limite venue du ciel. Elle témoignait d'une incapacité inavouée à s'auto-limiter. Seuls les esprits les plus lucides voyaient la nécessité toute humaine de cette limite transcendantale. L'humanisme a beau protester en toute bonne foi de sa fidélité à la vérité chrétienne, il descend la limite sur terre. L'homme y devient l'arpenteur de son royaume moral et semble n'avoir d'autre voie que de tirer une ligne dans le monde, d'autre choix que de tirer une ligne entre le monde et lui, entre la nature et la culture. En prenant sur lui les attributions bibliques qu'auparavant il se faisait confier par Dieu dans la Genèse, il se donne une responsabilité nouvelle qui le met dans un face-à-face sans médiation avec la nature. L'homme se considère hors, ou du moins à part, d'une nature qu'il traite désormais comme objet à sa disposition. Ce pouvoir de disposer que s'arroge l'humanisme implique une responsabilité. L'homme ne peut plus s'en remettre à la providence divine ou aux forces obscures quant au devenir du monde. Il doit lui-même se fixer ses propres limites dans son rapport à la nature. En quoi, il faut bien le dire, l'humanisme échoue. De ce que l'homme se sent libre d'utiliser la nature comme une vaste mine à sa disposition, il en dispose sans voir qu'il fait lui-même partie du fond qu'il exploite. Si bien que la limite qui nous sépare de la nature, loin d'être pensée, n'est que fonction de la puissance technique que nous accumulons. Il aura fallu attendre que cette accumulation entraîne des conséquences manifestes sur l'ensemble du globe et affecte potentiellement l'humanité entière, et non pas seulement les damnés de la Terre, pour que cette limite fasse l'objet de nos réflexions et que surgisse la question de notre responsabilité. Ce qui nous distingue de la nature n'est rien d'ontologique. Nous lui appartenons par essence, par définition. Ce qui nous en distingue, c'est la capacité de prendre conscience de la place que nous y tenons et du travail que nous effectuons sur elle. Même s'il s'avérait que ce travail est en fin de compte ce que la nature exige de nous à notre insu et que la liberté de l'homme n'est qu'une vessie trouée, cette exigence s'imposerait à notre pensée comme le plus formidable des défis. À supposer que l'homme soit commis par la nature à la pensée, ce travail de la pensée resterait ce à quoi l'homme ne saurait renoncer sans cesser d'être homme. Cette simple idée, bien qu'à jamais invérifiable, force la réflexion. Elle suggère qu'il est à la fois insensé de se considérer hors de la nature et nécessaire de penser la limite de son exploitation. Elle nous appelle à être dans la nature, dans le monde, avec discernement. Consentir au monde, ce n'est pas l'accepter indifféremment dans tous ses états. Comment néanmoins consentir à ce qui est sans accepter l'inacceptable? Il n'y a pas de formule. Il n'y a que la possibilité de mon attention au monde, la possibilité d'y refuser, non pas les choses, mais certaines d'entre elles. La capacité de refus que j'ai en partage avec d'autres fait partie du monde. Consentir au monde, c'est consentir aussi à ce que je refuse en lui. C'est consentir au refus que je lui oppose. Dans le monde, lui, vacillante et tenace, la capacité de discerner. Discerner, passer au crible, d'une racine indo-européenne, krei, en grec, krinien, séparer, trancher, choisir, décider, juger, interpréter. Dont dérivent aussi critique, crise, et, par le latin, crime, excrément, certitude, concert, discrétion et secret. Pour ne donner qu'une petite idée de la liste des mots qui partagent la même origine. Du mot, l'étymologie ne donne pas le vrai sens, qui procède de l'usage, mais elle indique sa profondeur, ses sources, ses ramifications. Elle donne à rêver la multiplicité des sens qui le soutiennent et le côtoient. Le discernement nous mène ainsi au tri, à l'interprétation, à la discrimination et au déchet, excrementum. Il n'y a de regard sur toute chose que discriminatoire. L'indéterminé n'offre aucune prise, il n'a pour nous pas d'existence. Peut-être est-ce de cette première évidence que par Anaximandre, le philosophe ionien du VIe siècle avant notre ère, lorsqu'il dit, dans le célèbre et énigmatique fragment qui nous est resté de lui, que les choses, avec le temps, se rendent justice dans leur mutuelle discorde. Idée qu'on retrouve chez Héraclite qui célèbre la fertilité des conflits et l'harmonie des contraires. Sans opposition, sans contraste, sans ombre, comme l'a montré la traumatique expérience des prisonniers soumis à la privation sensorielle, l'homme est atteint dans son équilibre et sa santé mentale. La limite, la frontière, la délimitation, le territoire font partie des conditions primordiales de l'existence, animale et humaine. Et chez l'homme, j'ignore ce qu'il en est des autres animaux, la faculté de discerner ne s'exerce pas seulement, ni même principalement, à l'égard de l'espace physique qui l'entoure, mais dans cet autre paysage intérieur qu'il promène partout avec lui et qu'on appelle l'imaginaire. Nos représentations mentales nous sont aussi nécessaires que le creux de la main. Sans elles, l'esprit, la conscience, se perdraient dans les sables. Un monde sans frontières est une forêt sans chemin, un désert sans dunes, une mer sans rivage. Pas plus imaginable qu'un tableau sans contour. Je ne sais plus qui a peint un carré blanc sur fond blanc, représentation picturale de l'absence de représentation, encore que cette absence nécessite elle-même un cadre, mur, salon, musée, qui la donne à voir. L'exploit ne peut être répété, tout au plus plagié, dans d'autres tons. À moins d'y voir une sorte d'exercice zen, j'ignore tout du zen. Il se peut que le zen conduise à l'équivalent mental d'un monde sans frontières, à une sorte de perfection dans l'absence, à l'expérience d'une non-conscience, comble du vide. Je n'en sais rien. Et dire quoi que ce soit est déjà trop. S'il y a là une sagesse, elle m'est à jamais inaccessible. Et si j'y avais le moindre accès, je ne songerais même pas à en parler. Je vis dans la finitude. La finitude est ma condition. Mais je vis en un temps et en un lieu qui la supporte mal. L'Occident ne supporte pas la limite. Il ne supporte pas la limite et couvre le monde de cicatrices. Je vis une époque où chaque limite risque de se barbeler, où chaque blessure menace de s'envenimer. Blessure dans l'espace et dans le temps, nous sommes aussi grands sectionneurs de temps, additionneurs de tronçons historiques, diviseurs d'époques qui s'engendrent et se contredisent les uns les autres. Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, comme si l'histoire n'avait rien de mieux à faire que de mettre des époques bout à bout, de cimenter la conduite centrale du tout à l'égout, afin de nous préparer. Pas d'autre fin que notre avènement, avènement toujours repoussé, remis à plus tard. Le présent n'est jamais pour nous que le passé d'un avenir introuvable. Comme le dit bien Pascal, le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. La procrastination du présent a quelque chose à voir avec le refus de la limite. Ce qui, avec le bonheur de l'instant, est sans cesse reporté, n'est autre que la présence de la mort. Je vis une civilisation à ce point réfractaire à la finitude qu'elle va jusqu'à offusquer la mort. Elle la nie et l'invective tout à la fois. Elle l'oblitère et la combat. Formidable inconséquence que de croire affronter ce qu'on fuit et repousser ce qu'on occulte. La mort ainsi déportée devient l'affaire de l'autre, directement ou indirectement. L'autre met notre existence en danger, sa suppression ou sa mise à l'écart est la condition de notre longévité. Live and let die. Barbelé et refus de mourir vont de pair. Non, je dois faire erreur. Ce qui ne souffre pas de limites ne saurait enfermer ni exclure. Le combat contre la mort, le combat pour la civilisation, concerne toute l'humanité. Par principe, il n'exclut personne. Si l'œuvre civilisatrice progresse inégalement, si elle rencontre des méfiances, des résistances, c'est qu'elle demeure encore largement inassimilée, incomprise. Affaire de décalage historique. La compréhension, l'inclusion prennent du temps. Les disparités de l'histoire finiront par se résorber. Possible. Mais combien de décennies, combien de siècles faudra-t-il encore à ces lendemains enchanteurs pour accomplir leurs promesses? Nul n'en a la moindre idée. L'idée de progrès, le bonheur pour tous, la civilisation du loisir, l'éradication des maladies, l'échec au vieillissement, tous ces espoirs, tous ces projets alimentent la fable sans limite qui nous guide et à laquelle personne au fond ne croit, à laquelle le spectacle du monde offre chaque jour le plus cruel démenti. L'absence de limite est un mauvais espoir dans un monde bardé de clôtures. Car la limite n'est pas clôture et l'absence de limite ne rend pas libre. L'excès n'est pas liberté. En soi, la limite n'exclut pas. Et toute exclusion n'est pas forcément mauvaise. Alors que le besoin de tout inclure, ce besoin malade de réduire toute étrangeté au connu, mène aux exclusions les plus radicales. La frontière n'est fermeture qu'irréfléchie. Ce qui ferme, c'est le refus de penser. Refus ou paresse, peu importe, prison de l'imaginaire, où je suis à la fois prisonnier et gardien. Nous avons tous plus ou moins entendu parler de ces détenus enchaînés dans une caverne. Ils ont le cou pris dans un carcan qui ne leur permet pas de tourner la tête et ne voient que l'ombre des simulacres qu'un feu invisible dans leur dos projette sur la paroi qui leur fait face. On pourrait croire qu'ils sont des esclaves d'un maître cruel. Mais non, ils sont là à ne rien faire, à regarder des ombres passer. Pour un peu, on les croirait devant le petit écran. Rien ne les asservit qu'eux-mêmes, rivés à leur banc de leur propre gré. Platon va jusqu'à dire que celui qui voudrait les libérer de leur chaîne risquerait d'y laisser sa peau. Les Athéniens, après tout, ont bien condamné Socrate à mort et l'ont même fait démocratiquement. La Boétie parlera, lui aussi, de servitude volontaire, mais en décrivant cet empressement comme lié au misérable espoir que nourrit chacun de gravir un échelon dans la hiérarchie répressive. Dans l'allégorie de Platon, l'idée d'un gain quelconque n'est même pas évoquée. Nulle hiérarchie, tout le monde aligné au même niveau d'hébétude. La limite à laquelle chacun pense, semble acquiescer, est intérieure. Nous veillons nous-mêmes à rester enchaînés. La caverne, c'est notre propre crâne. L'allégorie a suscité tant de commentaires qu'elle semble avoir épuisé sa force d'évocation. Je me demande si cette usure ne vient pas de ce qu'on admire la caverne du dehors, comme si elle s'offrait au regard en coupe verticale, à l'instar de ces maquettes sans façade qui laissent voir l'agencement interne de leur espace. En opérant cette coupe magistrale, l'architecte nous ferait voir d'un extérieur improbable, sous l'angle magique supérieur, ce qu'il en est de l'homme et de la connaissance. L'allégorie diaboliquement trompeuse établit une limite qui nous en sépare de manière parfaitement illusoire. Ah, s'il suffisait de cette simple distance, nous serions sages à la simple vue du spectacle qu'elle nous offre et nous tiendrions la vérité à peu de frais. La caverne, bien sûr, nous y sommes, en compagnie du philosophe, qui lui non plus ne l'a pas quittée. Pour quelle improbable étoile! Mais du moins le philosophe se défait-il de ses chaînes. Il voit le feu, il voit la roue des simulacres. C'est lui qui finalement découvre et emprunte le long chemin tortueux qui mène péniblement à l'air libre. De là à le croire arrivé au royaume des idées, en contemplation devant l'intelligible, il n'y a qu'un pas. Erreur. La lumière du jour lui mange les yeux, il ne voit rien, sans même parler du soleil. Il lui faut, pour ainsi dire, refaire une caverne dans ses mains et très lentement ouvrir les yeux, les doigts. Ce qu'on aperçoit difficilement à cette lumière, c'est que le monde qu'elle éclaire n'est autre que ce monde-ci, ce monde que nous habitons si peu, si mal. Les bornes dans lesquelles nous maintenons notre esprit nous empêchent de voir les choses et nous privent de leur beauté. La caverne, sa paroi visible, fait écran à la réalité. Elle est l'habitude où la paresse noie toute chose. La réalité n'est pas donnée, trop d'automatisme la recouvre. Ce qui nous a été donné, s'il nous a été donné d'y baigner dans la prime enfance, nous l'avons oublié, à force d'apprendre. Ce qui fait de l'acquis, ce qu'on appelle aussi la culture, un terreau fertile, c'est de la retourner, de la défaire, c'est d'en faire une terre toujours meuble, prête à recevoir. Voir est un long travail. Ce travail est à la fois sans limite et tributaire de notre finitude, jonction de l'extrême et de la mesure. Il n'y a pas de limite au désir de beauté, et de l'exercice de ce désir n'est possible. Et l'exercice de ce désir n'est possible que dans les limites de la machine humaine. S'il nous faut toujours revenir à la caverne, dont on ne parvient pas vraiment à s'absenter, ce serait comme quitter notre être, devenir fou peut-être. Mais l'esprit peut s'appliquer à rendre ses murs plus poreux. Si les portes de la perception étaient nettoyées, disait William Blake, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est infinie. Mais ces portes restent la plupart du temps opaques. L'infini qu'elles retiennent, qu'elles laissent tout au plus deviner par intervalle, n'est jamais qu'un appel. C'est l'appel d'Eros, cher à Platon, celui dont Socrate dit à ses amis, amateurs d'adolescents, qu'il le tient d'une femme. Tension entre ce que j'ai, le désir, et ce qui me manque, tout. Le manque est ma condition, le manque est en moi sans limite, comme un puits sans fond qu'aucune jouissance ne peut combler. Si je comble mon désir, je l'étouffe. Si je l'exacerbe, il m'épuise. La quête incessante du plus de jouissance et des moyens nécessaires à son obtention fabrique ma servitude. Se mettre en état de manque, comme on le dit à propos de la drogue, c'est se rendre prisonnier de l'éphémère, esclave de la tyrannie des sens. Pour les sens, il n'y en aura jamais assez. Ce manque-là, physique, installe la dépendance. Chez Platon, le manque est une force. Il est le plus puissant levier de la pensée. D'autres diraient que Platon invente la sublimation. Terme plutôt péjoratif depuis Nietzsche, depuis Freud. Et c'est vrai que le christianisme, si mal nommé platonisme du peuple, en courbant, en canalisant les pulsions, a beaucoup contribué à poser ces limites dont, tout à l'heure, j'ai pu paraître regretter l'absence. Mais la religion, en tant qu'institution vouée au maintien de l'ordre, ne fait qu'ériger une servitude contre une autre. La limite est extérieure, imposée, subie. Platon, tout au contraire, la considère de l'intérieur. Homme de la caverne, il réfléchit à la frontière en lui. Il s'y poste et il y pense, il la pense. Il pense au jeu qui se joue en l'homme entre le limité et l'illimité. Ce jeu doit être pensé si l'homme n'en veut pas devenir le jouet. L'homme a la possibilité d'être joueur, sujet de son propre jeu. Or, il se contente le plus souvent d'en être l'objet. C'est que le jeu est une œuvre difficile, une exigence de longue haleine. L'homme est la possibilité de l'infini dans la finitude. Nous sommes à tous égards limités dans le temps, dans l'espace, dans nos moyens, dans notre faculté de comprendre. Mais dans ce royaume limité que constitue notre vie et notre personne, l'idée même de notre finitude projette la pensée au-delà de ses frontières. La simple question d'un au-delà de l'univers, d'un au-delà de la mort, le seul fait qu'on se la pose est la marque de l'infini en nous. Finitude des sens, infinitude de l'esprit. L'esprit conçoit ce qui le dépasse, il mathématise l'infini. En ouvrant des espaces aux infinis à la réflexion, l'esprit déjoue le piège des sens, il dissout l'obsession de la jouissance et de la possession. Il nous libère de la performance, que ce soit dans l'amour, dans le travail, le sport, le jeu, la drogue. Qu'importe la façon, le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. S'agirait-il d'être sobre? Enivrez-vous sans cesse, disait mon Baudelaire préféré. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Aurais-je oublié? Aurais-je abdiqué? L'éloge de la limite n'est peut-être bien qu'une rhétorique du renoncement. Et comment renoncer à la révolte dans un monde qui l'appelle sans cesse de ses atrocités? Comment se fixer des limites quand il faudrait hurler extrêmement l'horreur des extrêmes? Comment garder la mesure contre la démesure? La question se pose-t-elle vraiment? Ma démesure à moi sera toujours dérisoire devant l'immensité des forces en présence. Trop vive, trop vite épuisée, la révolte parvient rarement aux extrémités qu'elle combat ou n'y dure qu'un instant. Mais peut-être n'est-ce encore qu'une manière de donner raison à ma lâcheté. Je me rappelle tous ces moments raisonnables, ces ébauches d'audace aussitôt réprimées, la longue théorie de mes démissions, les choix que je n'ai pas osés. La peur du risque soudain n'a cessé, ma vie durant, de me précéder partout. Que risque-t-on à penser après tout? À cette pensée, la pensée chavire. La pensée est un naufrage, et je demande à la mer d'en pousser doucement les débris vers ma plage. Je demande à la mer de me bercer de sa menace silencieuse, certain d'être, en ce jour calme d'été, hors de son atteinte. Mais comme Ulysse, la pensée a mille ruses. « Je suis ton ivresse, murmure-t-elle, et je t'ai fait parfois longer l'abîme. » Vrai, il m'arrive de penser jusqu'au vertige, jusqu'au dégoût. Sable mouvant, la pensée cède sous son propre poids, se ploie, se noie dans ses propres éboulis. Tout jaillissement finit par retomber. Image de ce jet d'eau, à Genève, dont je ne pouvais détacher mon regard, escalade sans fin dans la quête de son vain dépassement. Un peu plus haut, un peu plus bas, la pensée, comme l'eau, finit toujours par plier l'échine et s'effondre, confuse, vaporeuse, belle malgré elle. La pensée ne peut qu'échouer. Mais elle est la première à le savoir. Au pire moment, c'est encore elle qui me tire de sa propre épave. Et mes démissions ne lui doivent rien. C'est même souvent de n'avoir pas suffisamment réfléchi que je n'ai pas osé. Si quelque chose m'a limité, au triste sens du terme, ce n'est pas la pensée, jamais. C'est la peur. Peur des coups, peur des blessures, physiques et morales, peur de manquer d'affection, peur de manquer d'argent, de talent, de courage, peur de la limite même, au fond, faute d'avoir pris la mesure des choses. Prendre la mesure des choses, ce n'est pas renoncer, c'est assigner sa juste place à ce qui mérite d'être redouté. Là où nulle mesure n'est prise, l'extrême est impensable, inévitable, invivable. Vivre aux extrêmes, comme on dit, n'est possible que dans la pensée, que par elle. Et encore, la pensée ne s'y tient pas longtemps. Je ne sais plus qui disait « l'excès est insignifiant ». J'ajouterais seulement « dans la durée ». Aux extrêmes, décidément, on ne peut faire que de brèves visites. Mais qui n'a jamais tenté de s'y rendre, ne serait-ce qu'une fois, n'a pas éprouvé la morsure de la vie. Le désir extrême des jouissances terrestres qui nous habitent et que réveille l'incarnation de la beauté, ce désir donne infiniment à penser quant à sa source. Le plus beau des visages n'est jamais parfait. Et j'ai pourtant cette faculté de le voir sans défaut, de projeter sur lui l'idée d'une beauté absolue. Que cette perfection ne paraisse qu'à mes yeux, et qu'elle n'y paraisse même qu'un instant, n'enlève rien à la force de l'idée. Descartes demande d'où vient l'idée de perfection, et cette question demeure toujours sans réponse. Dire qu'elle vient de Dieu ne fait que repousser la question. D'où vient l'idée de Dieu en tant qu'être absolument parfait? Naïveté de cette question, l'idée de perfection est une chimère dérivée d'une conception plus primitive de Dieu, en tant que Père Tout-Puissant, trace collective d'un sentiment infantile présent en chacun de nous. Peut-être, mais cette archéologie du sentiment religieux n'expliquerait que la crainte, le respect. Elle laisse entière la question de la beauté. D'où nous vient le désir de beauté? On répondra qu'il n'est pas chez tout le monde et qu'il nous vient, le cas échéant, du visage aimé de notre prime enfance. La mère prend place à côté du père, et même avant lui, comme modèle fondateur. Géniale intuition du catholicisme d'avoir compris cette dualité et hissé l'adoration de la mère de Dieu presque au même rang que celle du père. La vraie Trinité est mère, père, fils. Mais ce ne sont là que des hypothèses valables tout au plus pour les civilisations formées au creuset du monothéisme. Même en admettant leur vraisemblance, il faut se résigner à ce qu'elles n'expliquent pas tout. Il y a bien des théories possibles, contradictoires et complémentaires sur l'origine du sentiment religieux. Quelque forme qu'il prenne, ce sentiment me paraît lié d'une façon ou d'une autre à la conscience de notre finitude dans un monde qui a commencé et qui va continuer sans nous. Que faire de ce segment de vie qui nous est imparti? Pourquoi l'avons-nous reçu en partage? Et au-delà, la fameuse question fondamentale à laquelle Heidegger a donné une formulation particulièrement saisissante. Pourquoi donc y a-t-il l'étant et non pas plutôt rien? Cette question me paraît être la marque de l'infinitude de l'esprit. Si petits et limités nous soyons, notre étonnement, lui, n'a pas de borne. L'étonnement, tel la mer, est chez l'homme la forme toujours recommencée de l'amour du monde. Au-delà de la beauté, ou confondu avec elle, peu importe, la question de l'être. L'être comme question. Dans cette capacité qu'a l'homme de penser, étonnement et amour ne cessent de se féconder. Ils durent plus longtemps que toute révolte. Épuisante, la révolte s'épuise, tandis que l'étonnement ouvre à des nourritures infinies. C'est à cette possibilité que la philosophie s'alimente, et c'est pourquoi elle ne finira qu'avec l'homme. Si la philosophie occidentale semble aujourd'hui à bout de souffle, c'est peut-être qu'elle a depuis longtemps cessé de s'étonner. Plutôt que de se maintenir dans l'étonnement, dans l'indécision, dans l'ouverture au monde, elle n'a pas pu résister à la tentation de le clôturer par des réponses. Elle a cherché à faire, au niveau le plus général, ce que chaque science tente d'accomplir sur son terrain limité. Science et philosophie, en Occident, sont originellement indissociables. Toutes deux visent à la connaissance du monde. Mais sous l'effet des méthodes expérimentales, cette connaissance n'a pu progresser qu'au prix d'une fragmentation de plus en plus poussée du réel. Les disciplines sont des frontières, elles établissent les balises, certes amovibles, à l'intérieur desquelles la vérification d'une théorie, d'une observation, d'une hypothèse devient possible parce qu'elles établissent les conditions dans lesquelles cette vérification peut être répétée. Les possibilités illimitées auxquelles l'ingénierie expérimentale semble avoir ouvert la voie nous font oublier que ce phénoménal succès cumulatif est le produit d'un constant effort de réduction. La rigueur scientifique et la production technique passent par la réduction du réel. Kant reste à ce jour le grand théoricien de ce passage. Il a porté un coup mortel à la philosophie comme science du réel en établissant méthodiquement l'impossibilité où nous sommes d'appréhender les choses en soi. Ces bribes de réel que nous croyons saisir et que nous appelons phénomènes sont nécessairement des constructions. Rencontre du monde et du travail de la pensée, limitée par les moyens physiologiques et techniques dont nous disposons. Ces moyens, depuis Kant, ont beaucoup augmenté et semblent aujourd'hui voués à croître sans limite, au point où maints physiciens pensent que le secret de la matière est désormais à notre portée. L'espérance en une maîtrise définitive de la matière me paraît dérisoire et tout à fait contraire à l'esprit scientifique. Certaines coïncidences, notamment dans le développement respectif des mathématiques et de la physique, n'en donnent pas moins à rêver. Et il me paraît tout à fait légitime qu'on en vienne à se demander dans quelle mesure l'expansion technoscientifique réalise l'hypothèse galiléenne selon laquelle la nature serait écrite en langage mathématique. Dans quelle mesure, en effet, la technique moderne ne serait-elle pas l'expression d'une correspondance, somme toute probable, entre la structure de la matière et la structure de notre pensée? Mais il y a loin de cette hypothèse à la connaissance ultime de la matière. Même en admettant la vraisemblance de la correspondance entre matière et esprit, cette intuition sur l'unité profonde de l'univers ne suffit pas à nous en donner la clé. Ce serait confondre l'illimité virtuelle de la pensée avec la prétention à sa toute-puissance, confondre la possibilité d'une réflexion philosophique nourrie par la technoscience avec les possibilités de cette dernière. Les limites assignées à la science par la prudence philosophique kantienne ont éclaté sous l'énorme pression des réussites technoscientifiques qui se sont accumulées depuis 2 siècles. La science a en quelque sorte pris en charge l'espoir de vérité auquel la philosophie, avec Kant, avouait devoir renoncer. Le discours scientifique ne se contente que provisoirement de ces vérités partielles et n'a pas renoncé, lui, à dire le vrai sur le monde. Son ambition à cet égard demeure sans limite. Et, devant cette démesure, la philosophie, à laquelle le développement de la science offre pourtant une inépuisable matière à réflexion, en est arrivée à se taire. Depuis Heidegger, la philosophie a délaissé la Grundfrage, la question fondamentale de notre présence au monde, et ne s'occupe plus que d'épistémologie, au service des sciences ou d'herméneutique en liaison avec la littérature. Après un long détour, le discours de vérité, qui a cru pouvoir s'ériger contre la fiction, a fini par rejoindre la fable qu'il condamnait. Et la vérité est passée aux mains de ceux qui, parce qu'ils manipulent concrètement la matière, croient pouvoir en forcer la serrure. N'est vrai aujourd'hui que ce qui laisse des traces tangibles dans le monde. Et en un sens assez déroutant, rien n'est effectivement plus révélateur de l'homme moderne qu'un ordinateur, qu'une fusée nucléaire ou qu'un neuroleptique. Les succès sans fin de la technique, on ne le dira jamais assez, occultent le principe réducteur qui préside à ces développements. Notre démesure technologique prend sa source dans une réduction du réel qui reste insuffisamment réfléchie. Le virtuel s'offre à cet égard comme un véritable trompe-l'œil, ou pour mieux dire, comme un trompe-neurone. Aujourd'hui, notre caverne est électronique. C'est la toile, le réseau, le web. Le lieu par excellence de tous les échanges. Ces millions de prisonniers, effectivement, communiquent. Chacun, seul dans son coin, échange à l'infini des informations et des opinions sur les ombres de simulacres qui dansent sur son écran. Je n'incrimine pas l'outil, mais l'espèce d'engouement irréfléchi qui rend son usage insignifiant ou pire. Les simulacres qui circulent sur la toile électronique ne sont-ils pas, après tout, les phénomènes dont parle Kant? Le méticuleux philosophe de Königsberg nous invite en quelque sorte à ne pas chercher à sortir de la caverne, et plus que tout, à ne pas s'en croire sorti. Mais lui, du moins, ne cherche pas à nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Il y a tout de même un monde de différence à prendre des ombres pour la réalité, en tournant la tête vers eux, à envisager les simulacres pour ce qu'ils sont. Les seuls objets que, moyennant quelques efforts, nous puissions tenter d'examiner. La technoscience n'ouvre des horizons que pour autant que nous la pensions, c'est-à-dire dans la mesure où nous sommes capables et désireux de penser en dehors d'elle. Mais ce dehors n'est possible que si cette science elle-même se reconnaît comme limite et qu'elle renonce à la vérité. Et ce renoncement me paraît loin d'être acquis. En dépit de tous les désenchantements, de tous les scepticismes, de tous les relativismes, ou plutôt à cause d'eux, la science reste aujourd'hui dans l'imaginaire collectif comme notre seule planche de salut. Les épistémologues ont beau savoir que chaque discipline n'établit que des vérités partielles et provisoires, le progrès technique a beau nous surprendre, la fascination de la science et la technique est paradoxalement devenue une habitude en vertu de laquelle nous attendons de ces dernières plus qu'elles ne peuvent donner. Dans le cynisme diffus de nos sociétés, la science et la technique ont pour mission implicite de permettre à l'humanité de transcender graduellement sa condition. Nous savons bien pourtant que jusqu'ici, le progrès technique a amplifié plus que modifié la condition humaine. La science nous a donné d'immenses moyens, mais elle n'a pas changé l'homme. Le sujet de la science est son dernier bénéficiaire. Parler du sujet de la science plutôt que simplement de l'homme n'est pas sans conséquence. Il est évident que chaque humain est virtuellement bénéficiaire dans sa santé, dans son confort, dans sa capacité de jouer, des découvertes scientifiques, sans du tout prendre ici en considération les inégalités terribles qu'elles contribuent à accentuer et à supposer qu'elles finissent à long terme par devenir réellement accessibles à tous. Mais ce terme est imprévisible, il semble même très loin d'être en vue. Pour des raisons qui tiennent à l'homme même, et si je veux me souvenir ici de cet homme, que cet homme est sujet de la science, c'est justement parce que ce sujet a jusqu'ici montré beaucoup plus d'aptitude à modifier son milieu et à accroître ses outils qu'à se changer lui-même. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenté de se faire lui-même objet d'étude.